la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Quelle république? Au profit de qui? Ça peut être aussi une république sociale. Une république sociale, c'est-à-dire une république favorable aux petites gens, aux travailleurs. République sociale. La sociale. On disait même pas république, on disait la sociale. C'est une lutte de classe, la Commune de Paris. C'est pas une simple guerre civile. Il s'agit d'une lutte entre le gouvernement bourgeois conservateur et ce peuple parisien qui va créer une commune. C'est un nom anarchiste. Et ils vont effectivement se heurter à la bourgeoisie, des possédants, des propriétaires, des banquiers. Bon, c'est la bourgeoisie qui va gagner. La classe ouvrière a été matée. Ils ont maté la classe ouvrière dans le sang. Pour autant, est-ce que cette lutte était vaine, inutile, absurde?
Après seulement 72 jours d'existence, entre mars et mai 1871, la Commune de Paris est sauvagement réprimée par le massacre d'au moins 20 000 personnes. Et pourtant, la Commune a semé des graines qui germent encore et qui effraient toujours la bourgeoisie d'aujourd'hui. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à toi dans le premier épisode de cette série sur la Commune de Paris, avec notre copain André, notre prof d'histoire géo préféré, qui va planter le décor de ce chapitre mal connu de notre histoire. Salut André.
Bonjour, bonjour à tous.
La Commune de Paris est un épisode de notre histoire de France qui n'est surtout pas enseigné, et dont on ne parle surtout pas des fois qui donneraient des idées aux gens d'aujourd'hui. La Commune est pourtant un événement qui aura des répercussions internationales. C'est une révolte patriotique et révolutionnaire, car la Commune esquisse d'immenses avancées sociales. Est proclamée la séparation de l'Église et de l'État, l'union libre est reconnue, l'école est déclarée laïque et gratuite, les signes religieux sont enlevés des salles de classe, l'instruction des filles est à l'étude, l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes désormais envisagée, la citoyenneté française est ouverte aux étrangers, la journée de travail dans certains ateliers est réduite à 10 heures, le travail de nuit des boulangers est supprimé, les retenues sur salaire sont interdites, un salaire minimum est instauré, la liberté de la presse est garantie, il est décidé que les loyers parisiens non payés depuis 6 mois pour cause de pauvreté ne sont plus dus, et que les poursuites concernant les échéances en retard suspendues aussi. 3 ans sont désormais accordés pour le règlement des dettes. Alors on comprend bien pourquoi la Commune a fait peur aux bourgeois d'hier et continue à faire peur aux bourgeois d'aujourd'hui. Ce programme révolutionnaire de 1871 est perçu comme un véritable danger par la grande bourgeoisie, déjà au pouvoir, et qui va écraser la Commune avec la complicité des Prussiens. Bah oui, c'est comme ça en France, c'est presque une tradition. Quand les riches ont peur, ils vont pleurer dans les bottes des Allemands. Louis XVI et Marie-Antoinette avaient déjà fait le coup après 1789, et la grande bourgeoisie d'après 14-18 a remis le couvert avec l'étrange défaite de 1940 et l'occupation. Après l'avoir réprimé dans le massacre de plus de 20 000 Parisiens, la bourgeoisie a tenté d'enterrer la Commune de Paris dans l'oubli. Mais son souvenir bouge encore, et notamment avec cette chanson dont à peu près tout le monde connaît la mélodie.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guets rossignols, les merles au cœur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises, le souvenir que je garde au cœur, et le souvenir que je garde au cœur, et le souvenir que je garde au cœur.
Du souvenir de la Commune de Paris, il ne nous reste souvent que l'écho du temps des cerises. Chanson écrite en 1866, 5 ans avant la Commune, par un certain Jean-Baptiste Clément, qui en 71 est communard et prend part au combat de la Semaine sanglante de mai. Le temps des cerises a eu droit à d'innombrables interprètes, et notamment Charles Trenet, donc.
Et le souvenir que je garde au cœur.
Nous sommes au moment de l'enregistrement de cette émission, au printemps 2021, 150 ans après la Commune de Paris, dont le souvenir continue à effrayer la bourgeoisie, plus que jamais au pouvoir, comme en atteste cet article du Canard Enchaîné de mars 2021. La Commune de Paris, toujours prise à partie. La commémorer ou pas ? 150 ans après, elle divise plus que jamais. Faut-il choisir entre Napoléon et la Commune, entre l'empereur, qui a fait périr dans les 11 années de son règne plus de 5 millions de Français, comme l'écrivait Chateaubriand, et les communards qui exécutèrent 47 otages contre l'avis de leurs représentants? L'historien Pierre Nora a choisi. Il est pour célébrer le bicentenaire de la mort du premier, qui n'a jamais respecté la liberté de la presse et a fini dictateur, dit-il, mais pas le 150e anniversaire de la seconde, qui a laissé le souvenir d'un grand mouvement émancipateur, dit l'historien dans le Figaro du 18 mars 2021. Chacun ses choix. Mais lui revient-il de clore le débat entre ce qui vaut commémoration ou pas ? Pas sûr, d'autant que Nora a la mémoire qui flanche. Il a cru voir Georges Pompidou devant le mur des fédérés à l'heure du centenaire en 1971. Personne à part lui ne s'en souvient. Passé comme l'ancien président Pompidou par la banque Rothschild, Emmanuel Macron a lui aussi un avis tranché. Il n'est pas pour s'incliner devant le mur des fédérés. Il honorera Napoléon, qui a rétabli l'esclavage, mais pas la Commune de Paris, qui prônait l'égalité sociale. Son « en même temps » a bien fait son temps. En 2018 déjà, recevant Poutine à Versailles, le chef de l'État chantait les vertus de la ville du Roi Soleil. C'est là où la République s'était retranchée quand elle était menacée.
Drôle de référence au gouvernement tiers et à l'assemblée monarchiste réfugiée au château en 1871 pour désarmer les Parisiens opposés à l'armistice avec la Prusse de Bismarck. Thiers, qui fit donner la troupe pour abattre dans un bain de sang 20 000 morts. Les communards qui, en 72 jours, avaient promu l'école gratuite et obligatoire, la séparation de l'Église et de l'État, un moratoire sur les loyers, la reconnaissance de l'union libre, la citoyenneté accordée aux étrangers, etc., etc. La République de l'ordre contre la République sociale. 150 ans après, le manichéisme est toujours de mise et les esprits encore en ébullition. La Commune, un moment de terreur et d'anarchie annonçant la révolution russe de 1917, matrice d'un totalitarisme qui fit des dizaines de millions de victimes, tonne inquiet le Figaro Magazine du 19 mars 2021. Les élus LR de la mairie de Paris sont tombés à bras raccourcis sur Anne Hidalgo qui a prévu 50 événements dans la capitale jusqu'au 28 mai pour commémorer les insurgés. Au moment où les gilets jaunes sont au tribunal pour répondre de la mise à sac de l'Arc de Triomphe en 2018, la droite ne veut retenir de la Commune que les incendies des Tuileries, du Palais Royal et de l'Hôtel de Ville. Si on occulte cela, comment peut-on porter un regard juste sur les exactions commises par les gilets jaunes ou les Black Blocs, interroge David Alphand, élu LR du 16e arrondissement. La gauche de la gauche, elle, reproche aux socialistes parisiens de récupérer l'événement pour se refaire une virginité idéologique. La Commune ne se laisse pas réduire par le consensuel, comme si la mèche libertaire qu'elle avait allumée menaçait toujours de renverser la République. Elle divise comme en ses premiers jours. Et le temps des cerises a beau être rentré dans le patrimoine de la chanson française, sa musique n'a pas encore adouci les mœurs, écrit le journaliste Jean-Michel Thénard dans un canard enchaîné de ce mois de mars 2021. Commune, on en parle donc avec André qui va aujourd'hui en planter le décor et le contexte politique et un peu remonter le temps avant cet événement.
Oui, quand tu m'as demandé de préparer une chose sur la Commune de Paris, 150 ans après, le souvenir s'est perdu. Et puis, en fin de compte, la polémique qui est apparue, à Paris en particulier, m'a remotivé pour reparler de cet événement fantastique, énorme, qu'a été la Commune de Paris. Je vois qu'il y a encore un combat à mener là-dessus, un combat pas seulement pour le mémoire et le souvenir, mais pour entretenir une histoire qui est nécessaire pour aujourd'hui. Alors, ce qui ne m'étonne pas, c'est que bien sûr, la bourgeoisie française, héritière de la bourgeoisie de Thiers et de Jules Favre et Jules Ferry et compagnie, continue de vouloir étouffer l'événement ou de le salir, de le déconsidérer, de l'assimiler à une chose horrible, etc. Comment faire une commémoration là-dessus, etc. Ça ne m'étonne pas.
Les mêmes, par contre, ça ne leur pose absolument aucun problème de célébrer le souvenir d'un type qui a semé la mort et la destruction dans toute l'Europe. Ça, par contre, célébrer Napoléon, ça pose pas de problème. Alors la Commune, quelle horreur.
Oui, non, bah bien sûr, mais regarde par exemple, on aurait pu faire une comparaison entre les victimes de la Commune, des Versaillais, parce que bon, les communards se sont battus, hein, il y a sans doute des victimes dans l'armée des Versaillais de la République réactionnaire, mais l'essentiel des victimes, ce sont des gens du peuple parisien, ce sont des ouvriers, des ouvrières qui ont été massacrés. 20 000 est un chiffre minimum, on ne sait pas très bien évidemment, parce que les massacres par la soldatesque versaillaise n'ont pas été enregistrés, n'ont pas été comptabilisés, mais enfin on peut penser qu'il y a au moins 20 000 victimes, sans compter les milliers de gens qui ont été proscrits, déportés en Nouvelle-Calédonie, et puis des gens qui ont été condamnés au bagne. Des gens ont été mis en prison encore 5 ans après la Commune. Hein. La répression, c'était jusqu'en 1875, en gros. Il y a eu des gens qui ont été poursuivis pour leur action. Beaucoup ont été obligés de s'exiler aussi, enfin pour ceux qui avaient les moyens de s'exiler, bien sûr. Donc il y a eu de très nombreuses victimes. Si on compare ce nombre de victimes aux victimes de la guillotine en 93-94, il y a eu moins de victimes à Paris. de la guillotine que de gens massacrés. Ça a été une guerre civile. Un événement tout à fait considérable. On peut s'étonner. Alors pourquoi ce silence assourdissant de l'histoire racontée aux élèves?
Bah oui, moi du collège à la terminale, j'ai jamais entendu parler de la commune dans mes cours d'histoire. Hein.
Bien sûr. Non, mais c'est normal que tu n'aies pas appris ça à l'école. Il n'y avait rien dans les manuels. Pour ainsi dire, rien. J'ai chez moi une collection de manuels d'histoire qui remonte au début du XXe siècle. Concernant, si, je suis tombé sur le Malais Isaac, édition 1930, il y a 10 pages, uniquement sur la commune. Il y a aussi une quinzaine de pages sur la défaite militaire du Second Empire, la campagne, etc. Et il y a 10 pages sur la commune. Alors bien sûr, le récit qu'en fait Malais Isaac, c'est pas un récit marxiste-léniniste, mais les faits sont là. Aux élèves de terminale de philosophie et de mathématiques de 1930, ben on racontait la Commune de Paris. C'était dans le manuel et c'était prévu dans les cours officiels. Et il est vrai que en 1930, combien y avait-il d'élèves qui allaient au lycée sur une classe d'âge? Il y avait 7-8% de la classe d'âge de gens qui allaient au lycée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus considérable, évidemment. Donc, on ne parle plus de la Commune de Paris. Les derniers manuels qui en parlent un petit peu, beaucoup moins que Malais Isaac, mais enfin, c'est 1976, mais le mot « commune » disparaît des titres de chapitre. On parle de l'année terrible, la défaite. Et surtout, il y a une chose constante dans l'étude de la Commune de Paris, on sépare très nettement la défaite militaire du Second Empire de l'événement Commune de Paris. Comme si les deux événements étaient séparés alors qu'ils sont intimement liés. On ne peut pas comprendre la Commune de Paris si on ne comprend pas l'effondrement militaire du Second Empire de Napoléon III et les manœuvres qui ont donné lieu. Et ensuite, après, les manœuvres avec Bismarck. Parce que Bismarck est un acteur essentiel dans l'histoire de la Commune de Paris. Car en fait, les insurgés parisiens qui établissent une commune, une république sociale à Paris, ils sont encerclés par les Allemands, affamés. Et Bismarck a fait un arrangement avec la République des Jules, des Grévy, Jules Fabre, Jules Ferry, etc. Et Thiers, il y a un arrangement. Bismarck permet à la République, au gouvernement réactionnaire de Versailles, d'écraser la Commune de Paris. C'est un arrangement. Les dirigeants réactionnaires français vont tout concéder à Bismarck pour que Bismarck aide les Versaillais à écraser militairement la Commune de Paris. C'est déjà une collaboration. C'est pas la première, ça sera pas la dernière. Des milieux dirigeants français avec l'étranger, avec l'Allemagne en l'occurrence, de façon à écraser un mouvement populaire en France.
Avant d'évoquer les événements de 1871, on va d'abord revenir à la Révolution française de 1789 et survoler jusqu'à 71 presque un siècle d'histoire politique ponctuée de nombreuses révoltes populaires. Au sujet de la Révolution française de 1789, on nous a brodé des tas d'images d'Épinal sur la liberté, l'égalité, la fraternité. Or, 89 est une révolution bourgeoise. L'aristocratie du sang est détrônée par l'aristocratie de l'argent dont la devise aurait pu être « liberté, égalité, propriété ». En 89, le peuple a juste changé d'oppresseur, mais ses conditions de vie ne se sont pas arrangées et à certains égards, elles se sont même détériorées. Avec l'avènement de la bourgeoisie au pouvoir, les petites gens vont même perdre certains droits et usages dont ils jouissaient sous l'Ancien Régime. La Première République pratique le suffrage censitaire. Seuls quelques hommes riches ont le droit de vote, André.
Très brièvement sur la Révolution française, parce que c'est pas notre sujet. Bien sûr, la Première Révolution française est une révolution libérale. La Constituante, ce sont des grands bourgeois. Leur idéologie, pourrait-on dire, c'était leur corps de pensée sur le plan économique et social, c'est le libéralisme. C'est-à-dire la liberté, laisser faire, laisser passer, laisser produire, interdiction de tous les règlements, de toutes les corporations, tout ça est supprimé. C'est-à-dire qu'on a le droit de produire comme on veut, où on veut, de la manière qu'on veut, etc. Même chose pour le commerce, il n'y a pas de limitation, alors qu'avant, il y avait relativement énormément de choses qui étaient sans doute des fois des choses extrêmement gênantes, mais aussi certaines choses servaient à empêcher la spéculation, par exemple sur les grains. Turgot avait essayé, tu vois, en 1776, je crois que c'est, sous Louis XVI, d'établir la liberté de commerce des grains. Tu vois, c'était un physiocrate, un adepte de Quesnay, c'est-à-dire on laisse produire, etc. Le résultat, c'est que bon, bah, t'as des spéculateurs, hein, t'as des agioteurs, comme on disait à l'époque, des types qui achètent le blé, et puis ensuite après, le revendent très cher. Hein. Et t'as des famines, des crises frumentaires. Or, l'ancien régime monarchique peut se dispenser de grandes crises frumentaires comme ça. C'est pour ça que la solution de Turgot a été écartée. Mais ces libéraux, ces bourgeois n'ont pas perdu l'espoir d'établir un régime totalement libéral. Et c'est la Révolution française qui va leur permettre. En fait, ce qu'ils vont établir, c'est le droit de propriété total, complet, de type romain, etc. C'est-à-dire, tu possèdes la terre et tu en fais ce que tu veux, tu peux l'aliéner, tu peux la vendre, comme tu veux, la transmettre, comme tu veux, etc. Bon, ça, c'est le fond de l'affaire. Et ensuite, après, t'es libre de tes affaires, t'es libre de ton pognon, etc. Et t'établis un pouvoir qui te maintient en possession. Et donc, le régime bourgeois, il commence là, dans cette première révolution française, qui ne sera pas dépassée, puisqu'elle va être perpétuée ensuite par Bonaparte et par les régimes qui vont le suivre. Ce sont des grands bourgeois libéraux, et y compris des aristocrates libéraux aussi. Il y avait des aristocrates qui étaient d'accord. C'est plutôt la petite noblesse hein, qui s'est trouvée dans la contre-révolution. Bien. Et ils établissent un régime bourgeois. Alors, bien sûr, la Révolution française va rebondir. Elle va rebondir parce que tu as une résistance, justement, du système d'ancien régime, des privilégiés, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de la noblesse et de la monarchie, etc. Et c'est cette résistance de la monarchie d'ancien régime et d'une partie importante des classes privilégiées qui va obliger la bourgeoisie à créer d'abord des alliances avec le peuple des sans-culottes, c'est ça les jacobins, de façon à vaincre définitivement la résistance des forces de l'ancien régime. Et voilà pourquoi elle va rebondir, qu'elle va devenir radicale, qu'il va y avoir tous ces événements à partir de 92. Mais jusqu'en 92, c'est une révolution de type anglo-saxonne, libérale, atlantique, comme disent certains historiens bourgeois, c'est-à-dire une révolution très bien, très convenable, puisque ça permet aux riches d'arriver au pouvoir, sans entrave, sans contrainte, etc., et que ça permet de faire un système parlementaire plus ou moins représentatif, plutôt moins que plus, enfin censitaire, bon... En France, ça va déraper, ou plutôt ça va rebondir, parce que là, la petite bourgeoisie, alliée au peuple parisien, va imprimer un deuxième élan à la Révolution française, qui va d'ailleurs se stopper assez vite. Hein, en juillet 94, Robespierre et ses amis sont guillotinés, etc. Et là, avec la convention thermidorienne et le directoire, la bourgeoisie reprend les affaires. Et remet un système censitaire les propriétaires sont et les brigands, hein, on va dire les brigands capitalistes sont au pouvoir à partir donc de 1795. Bonaparte va consolider cette république bourgeoise et ensuite après la récupérer à son profit pour faire une monarchie, mais une monarchie bourgeoise. L'Empire c'est une monarchie bourgeoise puisque Bonaparte va donner entièrement satisfaction à la bourgeoisie française. Même si c'est au profit de sa dynastie, de sa famille, etc., même si ça va l'entraîner à faire des guerres en Europe, etc., pour ce qui est de la France et de la politique, Bonaparte, il va consolider le pouvoir de la bourgeoisie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est encore aussi admiré. Il dit, ah bah voilà, un homme qui a posé des blocs de granit, etc., qui va consolider. Bah, il consolide quoi ? La Banque de France, le franc germinal, le code civil, c'est-à-dire le pouvoir de la bourgeoisie. Il crée les cadres juridiques, institutionnels, en quelque sorte. Il crée le lycée, il crée plein de choses. Il poursuit l'œuvre de la Révolution française en stoppant. Il stoppe la guerre civile, il stoppe, etc. Et donc, c'est un grand homme. Alors, on lui passe les dizaines de milliers de morts sur les champs de bataille, etc. Et sa politique très légèrement impérialiste en Europe, en quelque sorte. Hein. Bon, alors que bah, à la Commune de Paris, on ne va pas leur passer ça. Ces salauds de communards hein, qui voulaient s'en prendre à la propriété, qui voulaient s'en prendre au pouvoir de la bourgeoisie. Alors, eux, c'était des salauds. On peut les massacrer. Et on bénit le massacre.
Et on les efface des manuels d'histoire, tant qu'à faire.
Oui, oui, parce que c'est un mauvais exemple, etc.
Alors, on va un peu avancer dans le temps, jusqu'à d'autres images d'Épinal de révolte populaire, et notamment cette Marianne, seins nus sur la barricade, la liberté guidant le peuple, peinte par Eugène Delacroix pour célébrer les Trois Glorieuses de 1830. Révolte qui permettra à Louis-Philippe de monter sur le trône. Autre image populaire, 2 ans plus tard, le Gavroche des barricades parisiennes raconté par Victor Hugo dans Les Misérables.
Ce qu'on voit dans Les Misérables, c'est en 1832, quelques années après la révolution de 1830. En 1830, il y a les fameuses Trois Glorieuses. Pendant 3 journées révolutionnaires, le peuple parisien, ouvrier et petite bourgeoisie mélangée, vont renverser le pouvoir de Charles X. Charles X, c'est le Bourbon, c'est le dernier Bourbon, c'est-à-dire le dernier descendant direct. C'est un frère de Louis XVI, Charles X, hein, le comte d'Artois. Il est renversé, donc il est obligé de s'enfuir. Et la bourgeoisie va récupérer immédiatement le pouvoir. C'est-à-dire installer à la place de Charles X, Louis-Philippe d'Orléans, cousin des Bourbons, qui lui accepte le drapeau tricolore, etc., un petit coup de vernis républicain, national, français, etc., mais va installer un régime aussi très réactionnaire, hein, où le vote est un vote censitaire, il y a 100 000, 120 000 personnes qui votent en France, enfin là, il n'y a que la bourgeoisie qui a le droit de vote, en quelque sorte les propriétaires, hein, on va dire, et qui installe un pouvoir éminemment favorable aux banquiers. C'est une monarchie de banquiers, hein. Et la République orléaniste, celle qui est définie par les historiens français, c'est le noyau dur de la bourgeoisie, celle qui prend le pouvoir après, à partir de Bonaparte, hein, et qui va constamment conserver le pouvoir en France, on peut dire jusqu'à nos jours, hein. Il y a encore aujourd'hui des descendants de cette bourgeoisie orléaniste. Et le noyau dur, hein, les grosses fortunes en quelque sorte. Alors, il s'est aggloméré à cette bourgeoisie orléaniste depuis quelques fortunes plus récentes du 20e et du 21e siècle. Mais en gros, c'est le noyau dur de la bourgeoisie. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc, pendant la monarchie orléaniste, on voit un début d'industrialisation en France, hein, textile, début du chemin de fer, métallurgie, etc. Mais la France reste quand même très majoritairement rural, contrairement à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne et même à la Belgique. Toi, la France a du retard à cet égard. Mais il y a déjà une bourgeoisie industrielle qui naît et une classe ouvrière. Et en même temps que naît cette classe ouvrière, naissent les idées socialistes. C'est le début du socialisme, hein, le manifeste du Parti communiste, c'est 1848. La fin de la monarchie de Juillet. Et donc il y a un mouvement socialiste. Et il est très perceptible dans la deuxième révolution, celle de 1848, où les ouvriers parisiens participent à cette révolution, et le régime qui va s'installer, ça va être la République. Alors on l'appelle Seconde République parce que la première, c'était celle de la Révolution française, 1792, jusqu'au consulat de Bonaparte. Donc c'est la Deuxième République. Alors c'est une République qui est animé par une petite bourgeoisie parisienne qui veut établir le suffrage universel parce qu'elle n'a pas le droit de vote, et un certain nombre de revendications sociales. Comme la classe ouvrière a participé à cette révolution, elle va obtenir quelques lois sociales, par exemple les ateliers nationaux. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise qui éclate, une crise économique en 1847, donc juste à la veille de cette révolution, qui va se poursuivre quelques années. Une crise de surproduction, une crise capitaliste très classique. Et donc il y a du chômage, et les ouvriers vont obtenir la création d'ateliers nationaux. Mais cette classe ouvrière remuante et revendicative inquiète les possédants, les gros comme les petits. Et ils ne sont pas sûrs, en quelque sorte. Ils voudraient revenir à un système monarchique ou un système censitaire dur, de façon à interdire le vote populaire, parce qu'il y a une assemblée où il y a déjà des socialistes. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a des socialistes quand même. On vote pour les premiers socialistes à Paris à cette époque-là. Et donc, il y a un événement qui va se passer, c'est l'élection à la présidence de la République, la première élection à la présidence de la République. Et à cette élection, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, un neveu du Napoléon, le premier Bonaparte, qui va arriver à la présidence de la République. Et cet homme va servir les intérêts de la bourgeoisie. Alors, c'est un personnage qui paraît équivoque, ambigu au début, puisque un comploteur, c'est un aventurier de la politique. Hein. Il a été lié aux Carbonari, aux loges de Carbonari italiens et français. Il a été enfermé dans un fort, il s'en est évadé, etc. Et il va se lier à un certain nombre d'aventuriers politiques de sa famille ou d'autres, et malgré sa démagogie ouvriériste, car il a une démagogie ouvriériste d'ailleurs, à laquelle sera très sensible Proudhon, qui est le principal idéologue du socialisme à cette époque-là. Banque populaire, banque mutuelle, assistance, etc. Le projet de Proudhon, ce n'est pas la nationalisation des banques et des grandes industries. C'est un socialisme qui est très marqué par le fait que la plupart des ouvriers sont des artisans. La majorité. Alors il y a déjà des grandes industries, il y a déjà de la mine, etc. Tout ça va se développer, des grands centres industriels. Mais quand même, le premier socialisme français, celui qui est mené par Proudhon, il est très marqué par ces petits ateliers. Alors le projet, c'est un projet de, pour ces proudhoniens, de confédération, de libre association, d'artisans libres. Et pour échapper au capitalisme, avoir son propre système de crédit, de banque et de mutuelle. C'est le mutualisme qui naît à cette époque-là. Il y a bien sûr, sur le plan de l'analyse de la société et de l'économie, de profondes divergences entre Proudhon et Marx. Mais Marx n'est pas du tout développé en France, n'est pas du tout diffusé en France. Marx, les idées de Marx sont balbutiantes. Lorsque naît la première internationale en 1864, nous sommes sur le Second Empire, il y a très peu de socialistes en France, et d'ailleurs dans la Commune de Paris, il y a des socialistes, hein, l'internationale est présente, il y a des militants socialistes, et ils seront, mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, la majorité des militants et des dirigeants de la Commune, ce sont des proudhoniens et des anarchistes, et des blanquistes aussi. Je dirais quelques mots de Blanqui, qui lui est un authentique révolutionnaire. Revenons à la monarchie de Juillet. Donc elle s'écroule, la Seconde République s'installe en 1848, et le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, va organiser un coup d'État de façon à permettre à la bourgeoisie d'assurer son pouvoir. En fait, il s'agit de ça, il s'agit de, en quelque sorte, de rassurer et d'avoir un régime stable, favorable aux affaires.
Donc d'abord il est élu, et ensuite il fait un coup.
Il va organiser un coup d'État, le fameux 2 décembre 1851, tout ça est raconté par Victor Hugo, hein, de façon très très détaillée, puisque Victor Hugo va essayer d'organiser la résistance, etc. Mais la résistance à ce coup d'État ne va pas marcher, la classe ouvrière ne va pas résister à ce coup d'État de Napoléon. D'abord parce qu'il y a des illusions. Il y a la légende bonapartiste qui a été soigneusement entretenue par les chansons de Béranger, etc., l'illustre ancêtre, etc. Hugo, par exemple, fait un véritable panégyrique du premier Napoléon, qu'il compare au deuxième, qui lui est un nain.
Le petit,
Napoléon Petit, il faut lire Les Châtiments. Victor Hugo va écrire un recueil de poèmes extraordinaires qui s'appelle Les Châtiments pour fustiger le coup d'État et le régime de Napoléon III, du futur Napoléon III. Parce que pour l'instant, quand il fait son coup d'État, il n'est pas encore empereur. Il va organiser des plébiscites pour se faire nommer empereur. Mais je reviens un petit peu sur la Seconde République, au régime qui naît après la Révolution de Juillet 1848. En 1848, le peuple parisien et une partie du peuple français fait une révolution, mais essentiellement parisienne quand même, hein, pour renverser le régime de Louis-Philippe. La Seconde République donc s'installe avec une alliance entre la petite bourgeoisie et la classe ouvrière, en quelque sorte. Et cette alliance va éclater sous le coup, bien sûr, de l'Assemblée, qui est une assemblée conservatrice, une assemblée de propriétaires, très très méfiant, très hostile aux lois sociales et aux trucs comme ça. Et donc elle va basculer vers la droite, cette assemblée, et elle va supprimer les ateliers nationaux, etc. Et surtout, lorsque les ateliers nationaux sont supprimés, il va y avoir une émeute, une insurrection des ouvriers parisiens en juin 1848. Et cette insurrection va donner lieu à une répression. La Seconde République, avec l'armée de Cavaignac, va réprimer férocement les faubourgs ouvriers parisiens qui sont en émeute contre la suppression des ateliers nationaux. Il va y avoir des milliers de morts, des proscrits, des gens qu'on va envoyer en Algérie. On est en pleine conquête de l'Algérie à cette époque-là. Hein. Une partie des pieds noirs sont issus de ces gens qui vont être exilés, enfin qui vont être déportés en Algérie. Donc il y a une répression féroce, et après cette répression féroce de juin 48, qui ensanglante les faubourgs ouvriers, bien la classe ouvrière n'a pas l'intention de soutenir la République, hein, ça se comprend. Ce qui fait que Napoléon III va pouvoir faire, enfin le futur Napoléon III, Louis Napoléon, va pouvoir faire son coup d'État assez tranquillement, appuyé sur l'armée, sur l'Église et sur les possédants. Donc il fait son coup d'État qui est sanglant, mais enfin pas énormément. Enfin, la résistance n'a pas été considérable en quelque sorte. Il met des députés de l'opposition, il les met en prison à Mazas, bon bref. Et il s'installe et par plébiscite, par une succession de deux plébiscites, il va se faire d'abord nommer président à vie, puis prince-président, et puis ensuite après empereur, sous le nom de Napoléon III. Donc il va instituer un régime monarchique avec une assemblée. Il est très habile, Napoléon III, il maintient le suffrage universel, mais il est tellement trafiqué que l'assemblée est plutôt conservatrice. Il y a bien sûr une opposition, mais elle est très minoritaire, elle est très muselée. Et on peut dire que presque jusqu'à la fin, le régime est un régime personnel, sans vraie démocratie. C'est sous ce régime du Second Empire que va se développer de façon considérable l'industrialisation du pays. Le chemin de fer. Quantité de lignes de chemin de fer va être multipliée par 15. La métallurgie, le tonnage d'acier, etc. Les hauts fourneaux, tout ça va marcher à plein. L'industrie textile. Bref, il y a développement d'une industrie considérable. Notons tout de suite que c'est pas à Paris que l'essentiel de l'industrie lourde, de l'industrie qui emploie des milliers d'ouvriers se fait. Il y a peu de textiles, par exemple, à Paris. Alors que c'est le secteur le plus important, qui emploie le plus de monde, c'est le textile, et c'est pas à Paris. Quand elle est à la métallurgie, la grosse métallurgie, elle est pas non plus à Paris, elle est à Saint-Étienne, elle est au Creusot, avec Schneider, etc., ou dans l'Est, avec De Vindel. C'est la naissance du comité des forges, c'est-à-dire de l'association du très grand patronat français. C'est également la naissance des banques de dépôt. Crédit Lyonnais, Société Générale, ça naît à cette époque-là. C'est l'époque de la Société de Suez, du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, grand chevalier d'industrie, etc. Certains de ces grands capitaines d'industrie et de banque sont issus du mouvement saint-simonien. Saint-Simon, duc de Saint-Simon, considéré comme un des premiers socialistes utopiques français, c'est-à-dire le premier à avoir une réflexion sur la condition ouvrière. Alors, pour les Saint-Simoniens, la solution, c'est le progrès. Le progrès de la grande industrie, etc., la diffusion, et le combat contre les rentiers, contre la propriété foncière, contre ce qui subsiste de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire la grande propriété foncière, l'aristocratie, les trucs comme ça. Pour les Saint-Simoniens, c'est des technocrates, déjà, avant l'heure. Hein. Les grandes banques, Crédit Lyonnais et compagnie, c'est des Saint-Simoniens qui vont créer ça. Ainsi que le percement du canal de Suez, une grande opération. Il faut lire Zola, hein. Il faut lire Zola sur la bourse, etc. C'est dans la Curée, dans ces trucs-là, vous avez des témoignages sur le capitalisme, le Second Empire, ils sont absolument remarquables. Hein. C'est curieux d'ailleurs, parce que Zola, journaliste au Figaro, hein, par moment, n'est pas un révolutionnaire hein, du tout. C'est un mec de droite, hein. D'ailleurs il va désapprouver la Commune de Paris. Hein. Mais il va décrire la société bourgeoise capitaliste avec une telle justesse que les bourgeois lui en veulent, quand même. Inversement, les communistes, les socialistes, etc., vont utiliser Zola pour montrer ce qu'est la société, hein, Germinal, etc. Et c'est donc un auteur bourgeois qui va en quelque sorte faire une des meilleures descriptions du Second Empire bourgeois.
Ça fait aussi penser à Flaubert, hein. Pourtant Flaubert n'était pas un mec de gauche, lui aussi désapprouvera la Commune, mais il a très bien décrit ce qu'était cette nouvelle classe bourgeoise, tant et si bien que les bourgeois lui en ont voulu aussi.
Ah oui, oui, plus qu'à Balzac. Et pourtant Balzac aussi, avant Zola, avant Flaubert, Zola décrit la première bourgeoisie, hein, celle qui apparaît sous l'Empire et sous la Restauration. Il écrit sous la Restauration, hein. Et la monarchie de Juillet, donc le premier grand analyste de la bourgeoisie, c'est Balzac. Ensuite viendront Zola, Flaubert et d'autres, Maupassant aussi. Hein. Revenons au développement économique et social sous le Second Empire. Donc la France s'industrialise à très grande vitesse, mais elle reste encore, mais à la fin du Second Empire, majoritairement rurale. Et la France se caractérise par une importante paysannerie parcellaire, c'est-à-dire propriétaire de petits fonds, de petites terres, mais propriétaire, très attaché à la propriété, qu'ils ont arrachées avec la Révolution française, mais qui sont devenus conservateurs, réactionnaires, monarchistes. Surtout que les grands propriétaires, les descendants de la noblesse d'Ancien Régime, on n'a pas coupé la tête à tous les nobles, hein, je rassure les personnes sensibles, il est resté dans l'Ouest en particulier beaucoup de vicomtes, de marquis, de comtes, etc., qui possèdent des terres et qui exercent sur la paysannerie qui travaille sur leurs terres ou à côté une influence sociale, idéologique tout à fait considérable. Cette propriété foncière et l'Église exercent sur la plus grande majorité du peuple rural français une influence qui est une influence réactionnaire. Eux qu'on appelle les notables, vous entendrez souvent l'expression « la France des notables », etc. Qui sont les notables? Ce sont les propriétaires. C'est d'ailleurs les seuls qui ont le droit de vote. Et même quand il y aura le suffrage universel sous le Second Empire, ces gens garderont une grande influence sur leurs petites gens, parce que le scrutin n'est pas secret. On sait qui vote quoi. Et donc, les notables gardent une considérable influence, et dans les campagnes, les députés sont tous des députés de droite.
Quand on parle de suffrage universel, bien entendu, ça exclut les femmes, hein, les femmes françaises, d'accéder au vote qu'en 44. Mais cette situation, là, quand tu parles de la France des notables, quand tu dis que Napoléon III va, ou le futur Napoléon III va instaurer son régime avec, j'allais dire, avec des bibicites, avec des plébiscites, c'est ce que Daumier montre dans un célèbre dessin.
Daumier, où on voit le paysan qui demande au maire, au maire qui est le propriétaire, bien sûr le plus gros propriétaire de la commune, « Monsieur le maire, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite ?»« C'est un mot latin qui veut dire oui. » Vraiment, c'est tout à fait ça. Il y a plein de dessins de Daumier, de caricatures de Daumier, c'est remarquable. Hein. On voit par exemple un agent électoral de Napoléon III, hein, de l'Empire, faisant sa propagande auprès du paysan. Alors le paysan, il écoute d'un air un peu méfiant. Et le gars lui dit « On va te prendre ta vache, on va te prendre tes cochons, on va te prendre tes poules si les partageux viennent au pouvoir. » Donc faut voter à droite, quoi. Bien sûr, les notables gardent une grande influence. Ça explique la composition de l'Assemblée, celle qui va être élue au tout début de la République, au moment de la Commune, juste avant la Commune. Cette République qui va se réunir à Bordeaux, dans un premier temps, pour cause de guerre, et qui va se rapatrier à Versailles, en vue de la lutte contre les communards. Cette assemblée, elle est, je vous l'ai dit tout à l'heure, très majoritairement monarchiste. Elle est constituée par des légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes, enfin toutes les variétés possibles de monarchistes. Mais ils sont contre la République et ils sont contre le suffrage universel masculin. J'avais oublié de le préciser, mais bien sûr, évidemment, nous sommes dans une société patriarcale, hein, mais aussi bien chez les ouvriers que chez les paysans, quoique avec des différences cependant. Pour ce qui est de la condition de la femme, parlons-en, la condition de la femme. Bien sûr que dans la campagne, la femme travaille dans la ferme et elle n'a pas de droit. Je précise aussi que la femme est soumise à un code civil, celui de Napoléon Ier, pour le coup, hein, qui est un code civil très défavorable à la femme, qui établit la domination de la femme par l'homme, à tout point de vue, domination juridique, domination sociale, domination à tout point de vue. Même dans la bourgeoisie, la femme n'a pas le droit de signer un chèque, de faire une vente sans l'autorisation de son mari. Dans le code civil Napoléon, la femme, c'est elle qui fabrique les héritiers pour transmettre l'héritage. Tout tourne autour de ça, y compris la légitimité des enfants, les trucs comme ça. Il s'agit d'une question d'héritage. La moitié du code civil, d'ailleurs, porte sur l'héritage. C'est un code civil bourgeois. Et dans ce code civil bourgeois, la femme n'est rien. Elle n'a aucun droit. Alors elle peut être respectée par son mari lorsque c'est un brave type. S'il n'a pas envie de la respecter, il ne la respecte pas. Dans la famille ouvrière, c'est un petit peu différent. Évidemment, le mariage. Tu as souligné tout à l'heure que la Commune de Paris légalisait en quelque sorte l'union libre. Mais elle existait, de fait. Et d'ailleurs, la bourgeoisie dénonçait ça, stigmatisait en disant « immoral, les ouvriers sont immoraux, etc. » La bourgeoisie qui exploitait les femmes et les enfants de la classe ouvrière de façon scandaleuse et éhontée. Hein, songez qu'à l'époque, lorsque tu as une famille avec 3 ou 4 enfants, tous travaillent. La femme travaille, alors le mari, la femme, les enfants, et tous ces salaires réunis servent à peine à la subsistance de la famille ouvrière. Ceci est dénoncé par Marx, par Engels, etc., et par d'autres socialistes de cette époque-là. Il y a une exploitation, et dans des conditions, hein, les journées de travail de 12 heures, des nuits de travail également à la femme, puisque ce n'est pas interdit à l'époque, etc., aucun droit, hein. Alors, il y a bien eu une loi de 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 10 ans. Mais elle n'est pas respectée parce qu'il n'y a pas d'inspecteur, tout simplement, puis parce que le patron, il est maître chez lui. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il peut donner des amendes, il peut foutre à la porte. Il n'y a aucun droit à cette époque-là. Dans le textile, par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans les usines, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Beaucoup d'enfants aussi, parce qu'avec leurs petits doigts agiles, ils peuvent aller défaire les nœuds, tout ça.
Exactement, énormément d'enfants. L'espérance de vie dans ces familles ouvrières, ça a été dénoncé par Villermé, par d'autres humanistes, médecins ou autres, etc. Les conditions de travail, d'habitation dans les caves, dans le nord de la France, à Lille, etc., Tourcoing, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Alors bien sûr, la bourgeoisie aujourd'hui et une quantité de crétins feignent de croire que c'est maintenant ça a disparu parce qu'il y a eu un progrès normal des conditions de vie, etc. Omettant complètement les luttes de la classe ouvrière, y compris la Commune de Paris, hein, qui ont permis progressivement, avec du temps, hein, et beaucoup de sang versé, ont permis de mettre fin à ces conditions. Enfin, en France, en tout cas, au Bangladesh, il paraît que c'est encore le cas. Bon, on a déplacé le problème. Hein. Les capitaux se sont déplacés avec. Bon, toujours est-il que il y a une classe ouvrière qui a des conditions de vie assez épouvantables. Hein. Lorsqu'on examine ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir d'achat, le salaire, c'est très difficile parce que toute une partie de la classe ouvrière est au chômage pendant 2-3 mois pendant l'année. Au minimum. Hein. Des périodes de chômage non payées, évidemment. Considérables. Même si tu as un salaire de 4 francs par jour... Si tu retires 3-4 mois de salaire, quand tu songes qu'à l'époque, le pain coûte cher. Le pain reste encore, dans la classe ouvrière, la base alimentaire, et un poste de tout à fait considérable. Quant aux loyers, qui vont d'ailleurs faire problème pendant la Commune de Paris, c'était une part très importante du salaire des ouvriers. Et les propriétaires font pas de cadeaux à l'époque. Hein. Bon. Donc il y a une industrialisation, et quant à la paysannerie, bon, il y a des progrès dans l'agriculture, en particulier dans les grandes plaines du nord, de le bassin parisien, Normandie, tout ça. Mais en revanche, toute une partie de la France, massif central, centre, même sud-ouest, ou les montagnes, etc., où on travaille les champs comme on travaillait au XVIIIe siècle. Hein. Bon, la jachère a disparu, un certain nombre de contraintes collectives ont disparu, etc. Mais sur le plan agronomique, on n'a pas fait énormément de progrès. On moissonne le blé à la faucille. Dans une grande partie de la France. La faux est déjà un progrès dans les grandes plaines. Mais sinon, c'est la faucille, on scie les blés, etc. Et puis ensuite, après, c'est battu au fléau. Il existe encore beaucoup de métairies, c'est-à-dire de systèmes de location de la terre extrêmement avantageuses pour le propriétaire, mais désastreuses pour le métayer. Le métayer arrive, il n'a rien. Il a ses enfants, sa femme, etc. Bon. Et il arrive, on lui prête le matériel. On lui prête la métairie. Le troupeau, la semence. Et ensuite, après, eh bien, toutes ces récoltes, c'est à mi-fruit, en gros, c'est-à-dire la moitié de la récolte va au propriétaire. Donc, il existe encore ce système-là. Bon, il a à peu près disparu dans les zones de fermage, où c'est un fermage en argent. Pour la condition paysanne, y compris dans des régions riches, lisez Maupassant, les contes paysans de Maupassant, c'est sur le pays de Caux, c'est un témoignage tout à fait remarquable. Bon, donc il y a une paysannerie. Alors il y a une paysannerie pauvre, évidemment, c'est la majorité. Une paysannerie moyenne et une petite paysannerie riche, propriétaire, etc. Mais en gros, la terre appartient encore en grande partie à des propriétaires qui sont soit nobles, anciennement nobles, soit de la bourgeoisie. La terre n'appartient pas généralement à celui qui la travaille, majoritairement. Voilà la société rurale française qui va peser lourdement sur le truc. Il faut attendre la veille de la guerre 14-18 pour avoir la moitié de la population qui est industrielle, et population active, hein, qui travaille dans les usines ou ailleurs, ou dans le commerce ou dans le transport, et non plus dans la paysannerie, dans l'agriculture. Donc la France reste quand même un gros pays rural, paysan. Ça pèse sur la politique, c'est tout à fait évident. À la fin du Second Empire, à partir des années 1866-67, il y a une opposition libérale, on va dire la gauche de l'époque, quoi, en quelque sorte. Enfin, une gauche relativement modérée, mais enfin qui réclame des réformes au Parlement. Napoléon III, d'ailleurs, va faire des concessions. Et c'est lui, Napoléon III, qui va autoriser le droit de grève. qui n'existait pas. Je vous rappelle que le droit de grève, comme le droit de se syndiquer, ont été absolument interdits, supprimés par une loi de 1791, donc de la Révolution française, la fameuse loi Le Chapelier et la loi Allard, deux lois qui vont interdire toute association, y compris les associations patronales d'ailleurs. C'était une loi ultralibérale en quelque sorte, il s'agissait d'interdire. Bon, interdire les associations patronales, c'est sans vraies conséquences. En revanche, interdire le droit de grève et les associations ouvrières, là, évidemment. C'est pour ça que dans toute la première partie du 19e siècle, les ouvriers, en particulier les compagnons qualifiés, vont s'associer en le compagnonnage, le fameux compagnonnage, les sociétés secrètes de compagnonnage. C'est en quelque sorte la première forme que prend la résistance des ouvriers contre l'absence totale de droit de se défendre, en quelque sorte, contre les abus du patronat, etc., et contre l'exploitation. C'est leur manière, en quelque sorte, de boycotter les mauvais patrons.
Louis-Napoléon Bonaparte est donc élu président de la Seconde République en 1848. Il fait un coup d'État et devient l'empereur Napoléon III en 1852. Mais vers 1870, son régime s'effrite. Pour recimenter son pouvoir et fédérer les Français derrière lui, rien de tel qu'une bonne guerre. Napoléon III déclare donc la guerre à la Prusse, dont les dirigeants ont eux aussi besoin d'une guerre. Et c'est donc la guerre de 1870 que la France va perdre lamentablement. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la Commune de Paris, cernée par les Prussiens et bientôt écrasée par les Versaillais, pour lesquels le danger est plus incarné par les révolutionnaires français que par les armées prussiennes. Revenons-en à la fin du Second Empire et donc à la fin du règne de Napoléon III.
En réalité, il n'a jamais manqué du soutien de la grande industrie, de la banque et de la grande bourgeoisie. Simplement, la bourgeoisie, elle a besoin d'un régime qui est stable, qui n'est pas menacé. Il est là le problème du régime impérial. À partir du moment où le régime impérial devient fragile, si tu veux, ou du moins commence à avoir des signes de faiblesse, là, ça préoccupe évidemment les gens qui sont derrière et qui vont prendre le pouvoir d'ailleurs sous la République. Il y a une contestation. D'abord, il y a une montée du mouvement ouvrier. Si Napoléon III a consenti à légaliser la grève en 64, c'est parce qu'il y avait des grèves avant. Regardez Germinal, etc. Bon. Et ce sont des concessions qu'il fait. Il fait également quelques concessions aux libéraux, à l'Assemblée, etc. C'est ce que les historiens bourgeois appellent l'Empire libéral, c'est-à-dire la fin de l'Empire. On peut considérer que la fuite dans la guerre est un peu un moyen, un petit peu comme le tsarisme à la fin, faire une guerre pour renforcer son pouvoir. Et effectivement, il va provoquer la guerre avec les Prussiens. Alors, ça tombe bien, Bismarck aussi voulait provoquer la guerre. Donc, il y avait deux provocateurs, un de chaque côté. Bismarck, pour des raisons de la formation de l'Empire allemand, etc., sous l'égide du royaume de Prusse, pour des raisons différentes, mais n'empêche que les deux vont courir à la guerre.
Cette guerre de 1870, la France va donc la perdre lamentablement, et sans doute volontairement. Une partie de l'état-major français a trahi, comme cela arrivera à nouveau en 1940, car pour la bourgeoisie française, la Commune de Paris, le peuple français, semble plus dangereux que l'invasion prussienne. On va le voir un peu plus dans le détail au prochain épisode, mais la Commune a une dimension internationale. Car en gros, après l'étrange défaite de 1870, la bourgeoisie proclame la Troisième République. Et chose étonnante, c'est aussi l'acte de naissance de l'Empire allemand qui, pourrait-on dire, voit le jour en France, à Versailles.
Oui, l'Allemagne, l'Empire allemand, c'est-à-dire l'unification de l'Allemagne moderne, naît à Versailles. Avant Versailles, il y a des États allemands, la Bavière, la Prusse et d'autres États. Et c'est la Prusse, le roi de Prusse, Guillaume, avec son ministre, Bismarck, qui va faire naître l'Allemagne moderne. alors pas dans les mêmes, tout à fait les mêmes frontières, mais enfin c'est déjà l'Empire allemand naît à cette époque-là, grâce à la victoire sur la France. Et quant à la France, eh bien, c'est un peu plus compliqué, parce que il naît après la défaite de l'Empire de Napoléon III. Il naît une république qui est proclamée le 4 septembre à l'hôtel de ville de Paris. Il naît une république, mais c'est, cette république, elle n'est pas assurée du tout. Elle va assez vite procéder à des élections sous la protection de l'armée allemande qui occupe le pays. Elle va procéder à l'élection d'une assemblée, et cette assemblée, elle est réactionnaire, mais elle n'est pas républicaine. La grosse majorité des députés sont monarchistes, soit bonapartistes, soit légitimistes, soit orléanistes. C'est-à-dire qu'il y a trois prétendants au trône. C'est ce qui permettra d'ailleurs à la République de s'installer, parce qu'ils ne se mettront jamais d'accord. Et les milieux dirigeants, je veux dire la grande bourgeoisie française, celle qui est au pouvoir, à la manœuvre, elle va décider que, pourquoi tergiverser, on va installer une république conservatrice. Conservatrice, c'est elle qui va s'installer, il lui faudra 6-7 ans pour s'installer plus définitivement. Mais avec des députés qui sont des députés légitimistes, qui sont pour le comte de Chambord, des députés orléanistes, pour Orléans, descendant de Louis-Philippe, et les bonapartistes qui auraient voulu que le prince impérial, enfin fils de Napoléon III, succède. Hein. On va les appeler ces réactionnaires, ces bourgeois, ni monarchistes, ni républicains, qui sont pour le coffre-fort. Hein. On va les appeler les opportunistes. La première république s'appelle une république opportuniste, et ça porte bien son nom. Ça veut dire que, bon, pourquoi s'embêter avec des problèmes de dynastie ? On va installer une république avec suffrage universel. Hein, c'est le coup de culot de cette république, c'est de dire on va, malgré le suffrage universel, installer une république qui va être une république conservatrice, bourgeoise, favorable à la bourgeoisie, à la grande bourgeoisie. On va profiter pour ça d'un élément essentiel de sociologie politique de l'époque, c'est-à-dire la majorité paysanne, rurale. Ce sont les ruraux qui vont voter pour cette assemblée. C'est le pari que fait la bourgeoisie en disant, bon, on peut donner le suffrage universel, les pauvres vont voter pour les riches, hein, ça se fait aujourd'hui encore, hein, les pauvres votent pour les riches, il suffit de bien les chapitrer, hein, bien les, et leur faire peur, surtout leur faire peur des partageux, la peur des communards, la peur des rouges, etc., qui vont venir leur prendre leurs vaches, leurs chèvres, etc. C'est le même discours qu'aujourd'hui, en quelque sorte, les partageux. Et ça marche. C'est ce qui va permettre, en quelque sorte, à la bourgeoisie d'avoir une légitimité, entre guillemets, c'est-à-dire une assemblée profondément réactionnaire, très hostile au peuple de Paris, aux rouges, aux socialistes, aux anarchistes, etc. Et ça va permettre d'écraser très légalement, de massacrer très légalement ces éléments du peuple parisien, beaucoup trop en avance sur le reste du pays.
C'est ici que se termine le premier épisode de notre série sur la Commune de Paris. Le décor est planté. Merci à André que tu retrouveras pour la suite au prochain épisode. Tu peux en attendant réécouter cette émission et plein d'autres sur notre site polymix-et-la-voix-off.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises, le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur. Et le souvenir que je garde au cœur.
Radio G. 101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chronique.